La Bourse Cash, aujourd'hui avec Alexandre Aizé, stratégiste du groupe Richelieu. Bonjour.
Bonjour.
Votre punchline, la phrase que vous êtes venu défendre en plateau aujourd'hui, le problème de la Fed, c'est que l'Américain est trop riche.
Tout à fait. Bah écoutez, dans le dernier rapport trimestriel de la Fed sur les bilans des ménages et des entreprises, le patrimoine net des ménages est à peu près de 156 trilliards de dollars. Il a augmenté au quatrième trimestre de 3,5%. Et ce qui veut dire qu'en fait, depuis le Covid, l'Américain est de plus en plus riche. Alors évidemment, il y a l'emploi, hein, puisque dans le patrimoine, on ne regarde pas les salaires. Mais ça complique beaucoup le travail de la Fed. Pourquoi ? Rappelons-nous, il y a 2 ans maintenant, Jérôme Powell, qui disait qu'il allait faire souffrir les ménages et les entreprises par ses hausses de taux et sa politique restrictive sur la distribution de crédit, il n'en est rien. Et son problème, c'est que finalement, la hausse des taux n'a pas eu l'impact nécessaire pour faire baisser suffisamment l'inflation et suffisamment l'activité. Pourquoi ? Parce que pendant le Covid, les ménages américains, et d'une certaine manière aussi évidemment les entreprises et les grandes entreprises, mais se sont largement enrichis. On a ajouté à peu près en 4 ans dans le patrimoine américain 37 trilliards, donc 37 000 milliards de dollars de richesse.
Avec notamment de l'argent distribué par la Fed, hein, l'hélicoptère monnaie aux États-Unis.
Exactement, et par l'État américain, hein, par tous les plans de relance. Et d'une certaine manière, le ménage américain en a profité pour se désendetter. Hein, la dette moyenne du consommateur américain a baissé. Hein, et puis, il s'est enrichi en achetant de l'immobilier et en achetant des actions. Et force à penser qu'aujourd'hui, le marché immobilier est quasiment, en tout cas résidentiel, est quasiment plus haut et le marché des actions est quasiment plus haut. C'est-à-dire que le ménage américain n'a jamais été aussi riche. Donc, il continue à consommer un peu moins. Mais finalement, les hausses de taux et tout ce que peut faire la Fed, eh bien, ça n'arrive pas à avoir un impact suffisant. Et pire encore, c'est-à-dire que les ménages riches, on a à peu près 133 000 ménages qui se sont enrichis de 150 millions d'euros aux États-Unis en 4 ans. Donc c'est vrai qu'il y a une disparité assez forte, mais les ménages en moyenne, eh ben, placent leurs économies sur des placements qui sont de plus en plus rentables, puisque les taux sont de plus en plus hauts. Donc il y a un effet d'enrichissement, une boule de neige qui fait que la Fed n'arrive pas à arrêter ce mécanisme.
Il y a un constat qui complique évidemment la stratégie de la Fed. On n'est plus du tout dans un scénario de soft landing, ni même de no landing, puisque le livre beige l'a dit hier soir, il y a une légère expansion de l'activité au mois de mars. Et là, cet après-midi, l'indice de la Fed de Philadelphie montre, dans la région de Philadelphie, qu'on a vraiment des signes d'accélération de l'économie. Je vais vous poser la question très directement, mais est-ce que vous pensez que dans ces conditions, une baisse des taux est encore possible aux États-Unis ?
De manière très pragmatique, normalement, la Fed ne devrait pas baisser ses taux. Nous, au groupe Richelieu, il y a encore 2-3 mois, on disait entre une et deux baisses de taux, avec une deuxième baisse en décembre. C'est vrai qu'on n'aura peut-être qu'une baisse de taux, cette année.
Plus mais que... pourquoi une baisse de taux si elle n'est pas nécessaire ?
Alors, pourquoi ? Parce qu'il faut déjà arrêter pour se donner du temps. C'est-à-dire une baisse de taux pour dire on baisse les taux une fois, on réduit un peu le quantitative tightening et on attend. Et donc, c'est expliquer au marché que la dynamique elle est baissière, mais elle va être sur une tendance extrêmement longue. Et puis deuxième chose, il y a aussi des risques systémiques. On a vu dans les résultats de Blackstone le private equity qui pose aussi problème, on a de plus en plus de mal effectivement dans ce secteur-là. L'immobilier commercial cette fois-ci aux États-Unis est fortement impacté. On a vu qu'à chaque fois qu'il y avait des stress sur les taux d'intérêt, on a eu plusieurs banques régionales qui ont fait faillite et la Fed a dû apporter son soutien pour éviter un élément en cascade et des risques systémiques. Donc des taux trop hauts et trop longtemps risque d'impacter des acteurs faibles et notamment une partie du secteur bancaire via l'immobilier commercial.
Donc il faut. Vous dites que les Américains sont trop riches et ça pose problème à la Fed. On a un chiffre sur le logement qui est inquiétant. La possibilité pour les Américains de s'offrir un logement est au plus bas depuis 1980. Les logements sont chers. On a eu cette semaine le taux moyen des crédits immobiliers à 30 ans aux États-Unis. Ils repartent à la hausse, on est à 7,13%.
Alors malheureusement, il y a un déséquilibre. En fait, il y a un déséquilibre qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que les logements sont de plus en plus chers, les loyers sont de plus en plus importants, et donc c'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'indice d'affordability, c'est-à-dire ouais. cette capacité des ménages à pouvoir acheter. Le dernier point où il était le plus bas, c'était 2009, en 2008-2009, où on avait eu une crise financière. Là, on n'est pas du tout dans la même perspective, parce que l'endettement est bien moindre. En 2009, en fait, cet indice se faisait du fait d'un endettement supérieur. Là, ce que ça veut dire, c'est que ça crée d'énormes inégalités et des disparités dans la population américaine entre les ménages les plus riches et évidemment ceux qui n'ont pas ou peu de patrimoine. Et donc, c'est surtout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'en global, le ménage américain ne peut pas acheter de logement, mais il est de plus en plus concentré avec peu de dettes et peu financiarisé.
Vous le disiez tout à l'heure, la réserve fédérale américaine devrait baisser ses taux pour marquer le coup, pour envoyer un signal. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec le retour de l'inflation de devoir faire marche arrière? Ce sera vraiment le pire des scénarios, de baisser légèrement ses taux pour devoir les remonter par la suite.
Ça, c'est la question. C'est un peu une quadrature qui est très compliquée pour la Fed, d'ailleurs qui est moins compliquée pour la BCE, parce que là, on est en désinflation, puisqu'on avait un choc d'offres, alors que la Fed, en tout cas les États-Unis, avait un choc de demande, donc c'était lié à l'activité. Donc effectivement, c'est éviter ce retour en arrière. C'est pour ça que baisser une fois, et c'est surtout pour attendre. Il y a 5-6 mois, le marché s'attendait à 6, 7, voire certains 8 baisses de taux.
Ouais.
Là, on est maintenant à 2 baisses de... Maintenant, on est à...
2 baisses maximum.
2 baisses maximum, c'est assez récent. Et on sait que le marché de balancier, puisque finalement, 7 baisses étaient complètement idiot, hein, on sait que maintenant, le marché, et ça, c'est un peu la crainte du marché, peut même, et ça, c'est l'impensable pour l'instant, mais pricer des hausses de taux. Donc ça sera une possibilité si l'activité est très forte. Et là, ça mettrait les marchés dans leur ensemble en péril, les marchés de taux mais évidemment les actions, et surtout au niveau macroéconomique, ça mettrait les autres banques centrales et le monde entier qui attend la baisse des taux de la Fed, hein, qui attend des conditions de crédit un peu plus assouplies aux États-Unis. Et surtout, on l'a dit, la BCE n'a jamais agi avant la Fed. Là, ça sera le cas, ça sera une première, mais ça risque d'avoir des impacts sur l'euro-dollar et d'une certaine manière fragiliser la BCE, mais aussi le Japon qui commence sa politique moins accommodante et qui veut avoir un impact sur le yen, mais ça sera effectivement, ça n'a aucun impact. Donc ça met en péril à peu près toutes les stratégies des autres banques centrales. Et le véritable sujet, il est là.
Merci beaucoup, Alexandre Aizé, stratégiste du groupe Richelieu.